Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la rédaction française de Radio Prague. Voici les principaux titres aujourd'hui. Le Premier ministre Petr Nečas se réprimande son ministre des Finances. Festivité à Velehrad à l'occasion de la fête des apôtres Cyril et Méthode. Enfin, le sort de la ressortissante tchèque détenue en Syrie. Le ministère des Affaires étrangères dément en être sans nouvelles et essaie d'obtenir sa libération. Le Premier ministre Petr Nečas a véhément reproché à son ministre des Finances, Miroslav Kalousek, pour son appel qu'il a passé aux enquêteurs qui le mettent en cause dans l'affaire de l'achat douteux des avions militaires CASA. Un comportement inacceptable pour le Premier ministre qui a aujourd'hui averti tous les membres de son gouvernement qu'une nouvelle bévue de cette nature serait synonyme de mise à l'écart. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslav Sikorski, effectuait ce mercredi une visite à Prague. Ses entretiens avec son homologue tchèque, Karel Schwarzenberg, ont été axés sur la coopération régionale et la position des quatre pays du groupe de Visegrad, à savoir la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, sur la scène politique européenne. Plusieurs milliers de fidèles de toute la République tchèque prennent part chaque année aux journées des gens de bonne volonté, dont la 13e édition s'ouvre ce mercredi à Velehrad. Un des principaux événements religieux dans le pays est organisé à l'occasion de la fête nationale du 5 juillet, qui marque l'arrivée des évangélateurs saints Cyril et Méthode dans les pays tchèques. Vít Kolář, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a aujourd'hui démenti l'information selon laquelle les autorités tchèques n'auraient pas de nouvelles concernant la Tchèque détenue en Syrie. Selon lui, un contact avec les pouvoirs locaux aurait été établi en vue d'obtenir sa libération. Sandra Bitarova, arrêtée par la police secrète syrienne le 24 juin dernier, serait accusée de soutien aux forces de l'opposition du régime de Bachar al-Assad, selon des sources non officielles. Selon des données recueillies par l'agence de presse Citeca auprès de l'Institut National de Santé Publique, 125 enfants sont nés de mères séropositives en République tchèque. On passe à la culture maintenant avec la tournée européenne « From View to Lulu » du légendaire artiste américain Lou Reed. Celui-ci effectuait une étape ce mercredi soir à Prague au théâtre Arra. Animé par la poésie et le rock, cet ami de l'ancien président tchèque Václav Havel est l'un des pères de l'underground américain et le fondateur du groupe du Velvet Underground. Ce mercredi soir a lieu la première mondiale de l'œuvre Polski Film du réalisateur tchèque Marek Nybert dans le cadre du Festival international du film de Karlo Vivari. C'est l'un des quatre films tchèques en compétition et le seul qui concourt pour décrocher le prix du plus important du festival, à savoir le Globe de Cristal. Du sport également, et pour commencer du hockey sur glace, avec la star tchèque Jaromír Jágr, qui vient de signer un contrat d'une saison de 4,55 millions de dollars, ce qui représente environ 3,6 millions d'euros avec les Dallas Stars, selon le club texan. Jágr, âgé de 40 ans, est le 8e meilleur marqueur de l'histoire de la NHL, avec 665 buts. Et enfin, pour terminer, un petit mot sur la météo. C'est un temps nuageux qui continue à régner sur l'ensemble du territoire ce mercredi, le jour de la fête des Procopes. Des averses et des orages sont au rendez-vous, notamment dans le nord et dans l'est du pays. Les températures, elles, aussi entre 24 et 28 degrés. Merci d'avoir suivi cette page d'information qui vous était présentée par Pierre Ménian. La suite du programme tout de suite avec Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Le président Václav Klaus a nommé un nouveau ministre de la Justice. Les Sokol, membres d'organisations gymniques et patriotiques fondées il y a 150 ans, se sont donné rendez-vous à Prague. Tels sont les sujets de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à la rubrique Chapitre de l'Histoire, dans laquelle Anna Kubista vous invitera à une exposition retraçant la vie et le travail de Gordon Skilling. Exposition organisée à l'occasion du centenaire de la naissance de cet historien canadien. Merci de rester avec nous, passez un moment agréable en notre compagnie. Encore en novembre 2010, le premier ministre et chef du Parti civique démocrate ODS, Petr Nečas, disait avoir perdu confiance en Pavel Blažek. Ce mardi, c'est pourtant sur recommandation du premier ministre que le vice-président de l'ODS, Pavel Blažek, a succédé à Jiří Pospíšil au poste de ministre de la Justice. La presse spécule sur les causes de ce changement d'attitude de Petr Nečas et s'interroge sur le fait de savoir si le nouveau ministre poursuivra la réforme des organes de la justice entamée par son prédécesseur. Un des premiers pas du ministre doit être la nomination du nouveau président du ministère public supérieur de Prague, resté vacant après le départ de son chef controversé Vlastimil Rampula. Le président du ministère public suprême, Pavel Zeman, a déjà présenté à ce poste la candidature de Lenka Bradáčová, jouissant d'une réputation de juriste intègre et incorruptible. Avant de prendre sa décision, Pavel Blažek se réserve cependant le droit de rencontrer encore Lenka Bradáčová et de réexaminer sa candidature. Interrogé par la presse sur son attitude vis-à-vis de cette candidate appuyée, entre autres par le parti Top 09 de la coalition gouvernementale, le ministre a montré une solide connaissance des séries télévisées sur la mafia italienne.
Pavel Zeman apprécie chez Lenka Bradáčová son intégrité personnelle. Moi, à l'âge de 44 ans, je suis également capable de juger de l'intégrité des gens. Je rencontrerai donc Pavel Zeman et ensuite Lenka Bradáčová. Vous avez écrit qu'elle est le commissaire Catani en jupon, je connais cette série. Si elle est comparable à la juge Conti, elle pourra sans problème être nommée à cette fonction.
Le ministre se penchera également sur le projet de loi de la réforme du ministère public que Jiří Pospíšil a déjà soumis au gouvernement. Il ne cache pas dès aujourd'hui ses objections vis-à-vis de ce projet préparé par les représentants du ministère public et qui élargit dans une certaine mesure leur pouvoir décisionnel. Selon Pavel Blažek, ces pouvoirs doivent être soumis à un contrôle.
Si, en créant cette institution, nous fermons complètement ce système, il peut arriver qu'un nouveau Reinhard Heydrich, excusez-moi cette comparaison extrême, devienne son chef. Il peut alors nommer n'importe qui à la présidence du ministère public supérieur et ce sera légal. Mais la démocratie est, entre autres, un système qui doit empêcher les personnes non démocrates d'agir légalement.
Cette opinion est cependant loin d'être partagée par tous les juristes tchèques. Parmi ceux qui insistent sur la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires et protestent contre le contrôle d'État sur les activités du ministère public, il y a l'avocate Hanna Marvanova de l'initiative « L'opinion publique contre la corruption ».
Un éventuel contrôle doit être réservé aux cours administratives. Le contrôle par le pouvoir exécutif est inadmissible. Au contraire, les liens entre le pouvoir exécutif et le ministère public doivent être affaiblis. Récemment encore, des affaires de corruption sensibles ont été influencées par des hommes politiques et par des gens liés au pouvoir exécutif, et cela a bloqué les procédures concernant ces grandes affaires de corruption économique.
La raison officielle du limogeage de l'ex-ministre de la Justice Jiří Pospíšil a été son incapacité à réduire le budget de son secteur. Son successeur Pavel Blažek se propose d'épargner les moyens de l'État et d'améliorer la situation du service pénitentiaire.
Le gouvernement est présidé par Petr Nečas qui exige, et je crois qu'il a raison, qu'on fasse des économies partout où c'est possible. Aujourd'hui encore, je dois m'entretenir avec mes adjoints sur les possibilités d'épargner des moyens parce que la situation du service pénitentiaire est vraiment compliquée. Nous pouvons nous entretenir dès maintenant de la définition de certaines normes, mais je ne peux pas vous donner une recette comment épargner ces moyens. Ce n'est pas à l'ordre du jour.
Le serveur Lidovky.cz rappelle dans ce contexte qu'en 2010, Pavel Blažek critiquait alors la politique de responsabilité budgétaire du gouvernement et soulignait que la politique gouvernementale ne devait pas reposer uniquement sur le budget. Prague accueille jusqu'au 6 juillet prochain le 15e rassemblement des Sokol, en français Faucon, organisation gymnique et patriotique tchèque qui fête cette année le 150e anniversaire de sa fondation. La manifestation a rassemblé dans la capitale pas moins de 20 000 membres du Sokol venus de République tchèque et de 15 autres pays, dont la Pologne, la Suisse, la Bulgarie, la Suède et les États-Unis. Magdalena Rosinkova.
Les Sokol ont été 15 000 à défiler dimanche 1er juillet, jour de l'ouverture du 15e Slet, le nom de ces rassemblements en tchèque, dans les rues de Prague. Musique, chant et costumes traditionnels ont ainsi envahi la ville pour le plus grand bonheur de tous. Le Sokol étant une organisation non seulement sportive, mais également culturelle, les activités proposées aux participants tout au long de cette semaine sont diverses et variées. Danse, gymnastique, ateliers culturels, spectacles. Mais le but initial du mouvement est la pratique du sport en groupe. Tout le monde peut y participer, femmes, hommes, enfants, adolescents, personnes à mobilité réduite. Lors du défilé pragois des Sokol, Radio Prague a interrogé la présidente de la section du mouvement à Trenčín. Cette ville est située dans l'ouest de la Slovaquie, compte plusieurs centaines de membres du Sokol qui se réunissent régulièrement pour faire du sport.
Naša župa vznikla v 19. roku.
Notre division a été créée en 1919, tout comme les autres corps du Sokol fondés en Slovaquie. La toute première division a vu le jour dans la ville de Skalica, la deuxième chez nous à Trenčín. Évidemment, en 1948, les activités du Sokol en Slovaquie ont été interrompues. Elles ont été renouvelées en 1991. Donc le Sokol a même survécu à la partition de la Tchécoslovaquie. Elle s'est passée à l'amiable et pour cela, nous, Tchèques et Slovaques, nous continuons à nous apprécier et c'est pour cela que nous aimons revenir à Prague.
Environ 200 participants au rassemblement pragois du Sokol sont venus de tous les coins des États-Unis où le mouvement a également une longue tradition.
Cleveland, Ohio. Are there many members of Sokol? Yes.
Nous venons de Cleveland dans l'Ohio. Nous sommes nombreux, près de 500 membres. Nous ne faisons pas seulement du sport, nous avons aussi des danseurs. Nous faisons de la gym et nous organisons également des cours de tchèque en Amérique et encore plein d'autres choses. Notre association est tchèque. Elle a été fondée ici en 1862 pour ensuite migrer en Amérique 3 ans plus tard. J'ai moi aussi des racines tchèques, mes parents sont tchèques, mes grands-parents aussi, et mes arrière-grands-parents sont nés ici. La plupart des gens qui sont ici sont tchèques, c'est pour cela qu'ils sont là. Les nouveaux membres de l'association sont plutôt américains, parce qu'à vrai dire, nous essayons de faire participer le plus de personnes possible. C'est la 5e fois que je viens ici et la 4e depuis la chute du communisme.
And 4 since communism was over.
La Slovénie est un autre pays représenté au rassemblement du Sokol.
The Sokol movement are established in Slovenia.
Le mouvement du Sokol est arrivé en Slovénie, tout d'abord à Ljubljana en 1862 avec les Tchèques. Après cela, le mouvement s'est développé dans toute la Slovénie et dans notre ville à Klika, d'où nous venons. Le Sokol est apparu en 1907. Dans notre ville, participer aux activités du Sokol est devenu une tradition. Le Sokol y est quand même implanté depuis plus de 100 ans. C'est aussi la principale raison de notre venue.
City history, and this is the first reason.
Les 5 et 6 juillet, environ 14 000 membres du Sokol présenteront au stade de l'Eden à Prague d'imposants exercices en groupe. Le vendredi 6 juillet, Radio Prague consacrera une émission spéciale à l'histoire, au rôle et au rayonnement international de ce mouvement.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Le musée Kampa à Prague propose jusqu'au 30 septembre une exposition retraçant la vie et le travail de l'historien canadien Gordon Skilling à l'occasion du centenaire de sa naissance. Le commun des mortels ne connaît peut-être pas son nom, mais quiconque s'est intéressé de près à l'histoire du printemps de Prague et de la normalisation qui a suivi son écrasement connaît le gros travail abattu par cet historien tombé amoureux de la Tchécoslovaquie dès la fin des années 1930. Portrait d'un grand messier qui a été présent à presque tous les grands moments de l'histoire du pays au XXe siècle et qui, au cours de sa longue carrière, a même exercé quelque temps au sein des émissions internationales sur ondes courtes de la radio tchécoslovaque, l'ancêtre de Radio Prague. Thank you.
chapitre de l'histoire.
Il y a des ouvrages de référence pour chaque grand écrivain ou chercheur. Pour Gordon Skilling, historien canadien décédé en 2001, c'est à n'en pas douter Czechoslovakia's Interrupted Revolution, la révolution tchécoslovaque interrompue, bible monumentale de près de 1000 pages sur le printemps de Prague et son arrêt brutal suite à l'invasion soviétique de 1968. Cet ouvrage de référence est le résultat d'années de travail et de profondes connaissances du pays. Ce fils de cordonnier britannique émigré au Canada a gravi les échelons de la société grâce à des études qu'il réussit brillamment à la fois au Canada et à Oxford. Ses origines le poussent vers les idées de gauche, notamment pendant ses études. Jitka Hanakova est la commissaire de l'exposition au musée Kampa, elle précise.
Ce n'est pas que ses origines qui sont en jeu ici, mais également ses 4 années d'études à Oxford qui l'ont marqué à partir de 1934. Au vu de la situation en Europe à l'époque, il est même entré au Parti communiste britannique, mais il n'est resté que 5-7 mois.
Une appartenance brève qui lui sera reprochée bien plus tard lorsqu'il postulera pour un poste aux États-Unis dans les années du McCarthyisme, quand bien même toute sa vie et son lien à la Tchécoslovaquie prouvera qu'il est revenu de ses idées de jeunesse. La Tchécoslovaquie, Gordon Skilling la découvre vers la fin des années 30. C'est en Grande-Bretagne qu'il rencontre son mentor, Robert Seton Watson, spécialiste des pays slaves et grand ami du président Masaryk. Gordon Skilling marche dans ses pas et il se rend une première fois en Tchécoslovaquie. Jitka Hanakova.
Son premier séjour en Tchécoslovaquie lui a plu. Sa correspondance écrite depuis Prague le prouve. Elle est d'ailleurs sortie en 1986 aux éditions Samizdat Expedice de Václav Havel. À l'époque, il a eu encore la possibilité d'être présent à quelques discours du président Tomáš Garrigue Masaryk. Il était même présent dans le pays au moment de sa mort et il a assisté à son enterrement.
Ce n'est que bien plus tard dans sa carrière que Gordon Skilling s'attellera à la tâche d'écrire sur Masaryk et ses proches. Le pays dans la tourmente des grands soubresauts du XXe siècle le mènera à étudier bien d'autres sujets. Le plus frappant dans la vie de Gordon Skilling reste qu'il a été présent, ou à peu de choses près, lors de tous les grands événements qui ont marqué l'histoire du pays. Il est en Tchécoslovaquie au moment des accords de Munich et de l'occupation du pays. Jitka Hanakova.
Il est revenu en Tchécoslovaquie en 1938. Avant l'occupation, il travaille à Prague en tant que rédacteur des émissions internationales sur ondes courtes pour la radio tchécoslovaque et ce jusqu'en mars 1939. C'était des émissions destinées à l'Amérique du Nord où il parlait des événements en Tchécoslovaquie. Il rentre à Londres avant l'été 1939 pour finir son doctorat. Il faut encore préciser qu'à l'époque, Gordon Skilling et sa femme Sally ont beaucoup fait pour la population tchécoslovaque. De nombreuses personnes fuyaient alors le pays, mais aussi l'Autriche et l'Allemagne. Ils ont tous deux aidé ces personnes à se rendre à l'Ouest. Sally a joué un rôle majeur, car il a réussi à négocier avec le gouvernement canadien l'accueil de 50 000 réfugiés.
Car Gordon Skilling n'a pas été uniquement un grand universitaire, il a aussi été un homme droit et sensible à l'injustice. Bien plus tard, il va en effet s'impliquer de très près dans la défense des droits de l'homme et de la liberté d'expression dans la Tchécoslovaquie de la normalisation. Avant cela, comme beaucoup, il découvrira à travers le régime communiste que les idées d'humanisme et d'égalité prônées par le parti se sont transformées en machines à broyer les gens. Jitka Hanakova.
Gordon Skilling se vrátil krátce po...
Gordon Skilling est retourné à Prague juste après le coup de Prague en 1948 dans le cadre d'un voyage d'études de 3 mois. Comme il écrit dans ses mémoires, à ce moment-là, le changement n'était pas encore flagrant. Ensuite, quand il revient au début des années 50 et dans les années 60, c'est beaucoup plus évident. Il revient encore en 1968 pour voir l'atmosphère du printemps de Prague. C'est à cette époque qu'il rencontre de nombreux futurs dissidents, Jeřina Šiklová, Vilém Prečan, Petr Pidhart, etc. Il était enthousiasmé par les événements.
Abel z těchto událostí jako velmi nadšený.
Gordon Skilling sera absent en août 1968 au moment de l'invasion, mais il revient dès l'automne 1968. Il décide alors d'écrire sur 1968 et travaille dès lors d'arrache-pied à la rédaction de sa révolution interrompue. Dans les années 1970, il va continuer d'entretenir des liens d'amitié forts avec ceux qui sont devenus dissidents sous le régime de la normalisation de Gustavo Sack. Dans les années 50 et 60, Gordon Skilling est surveillé par la police secrète communiste, la STB. Dans les années 70, il l'est d'autant plus en raison de ses relations avec la dissidence. En 1977, il sera même interrogé et renvoyé à la frontière autrichienne et ne pourra revenir avant 1982. Dans les années 80, il rencontre le dissident dramaturge Václav Havel, futur acteur de la Révolution de velours, et passe du temps avec lui dans sa maison de campagne de Hradeček. Jitka Hanáková. Leur relation était une relation d'amitié. Gordon Skilling y suivait de près les activités de la charte 77. Il a d'ailleurs écrit un livre sur les trois premières années de la charte. En 1984, après être rentré au Canada, il écrit à l'historien Willem Prechan que Václav Havel passera un jour de Hradeček au Hrad, soit du nom du village qui signifie « petit château » ou « château de Prague, siège des présidents ». Gordon Skilling a été le premier à envisager un futur qui s'est réalisé.
En 1987,
Gordon Skilling est à Prague avec sa femme. Il fête alors ses 75 ans et ses noces d'or avec Sally. Ses amis dissidents organisent pour lui des secondes noces à l'hôtel de ville de la vieille ville de Prague, 50 ans jour pour jour après son mariage avec Sally, au même endroit. Sur la photo qui rassemble les Skilling et ses amis, se trouvent rassemblés la plupart des membres du futur gouvernement tchécoslovaque démocratique après la révolution de velours. 1989, évidemment, apportera à Gordon Skilling une grande joie. Il revient à cette époque au sujet qui l'ont mené à Prague au tout début. Il écrit sur Masaryk, son épouse et sa fille. Jitka Hanáková a eu la chance de rencontrer en personne Gordon Skilling avant sa mort en 2001. Elle se souvient d'un homme charmant et charismatique.
Gordon Skilling byl úžasný člověk.
Gordon Skilling était une personne merveilleuse. Il n'était pas seulement un grand historien, mais aussi un homme gentil, charmant, attentionné. Quand j'ai réalisé les entretiens pour le documentaire présenté à l'exposition, tous se souviennent de lui avec tendresse. Ils le considéraient comme l'un des leurs. Il ne se comportait pas de manière supérieure, comme quelqu'un venant de l'Ouest pouvant tout se permettre. Il s'est intéressé de manière intensive à ce qui se passait dans le pays. Tous se rappellent de leur première rencontre avec un homme à qui il n'y avait rien besoin d'expliquer au préalable. Un homme qui connaissait tout dans les détails. Un vrai dialogue constructif pouvait alors débuter. Pour son travail et son aide pendant les dures années du communisme, Gordon Skilling a été distingué dans les années 90 de la plus haute distinction d'État, l'ordre du Lion Blanc par Václav Havel. Une distinction qu'il est d'ailleurs possible d'admirer à l'exposition du musée Kempa.
C'était donc la rubrique Chapitre de l'Histoire, dans le cadre de laquelle Anna Kubishta nous a parlé de la vie et de l'œuvre de l'historien canadien Gordon Skilling. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes en audio et en texte sur www.radio.cz/fr.